les autres qui ont l'air idiots quand ils sont en montagne. Mais est-ce que la belle vie d'antan de ces gens qui étaient obligés de faucher dans des pentes inclinées à 40% et autres travaux durs d'arracher les pommes de terre et de travailler comme ça tout le temps sur les pentes, dans des conditions difficiles, en hiver, est-ce que c'était vraiment la belle vie Bon, voilà, je pense que ça pose une question d'ordre général par rapport à ce dont on entend dire c'était toujours mieux avant. Voilà, bon, eh bien, nous allons passer maintenant à la belle vie d'antan. Daniel, oh, c'est à toi. Voilà, justement, donc. Si vous voulez, oui, est-ce que. On pourrait faire donc après Daniel, parce qu'après il y aura le film, et puis on passe. Je pense qu'il y a une espèce d'une cohésion dans la première partie, la deuxième partie étant beaucoup plus justement et qui sera introduite par le film de l'UNICEF, consacrée vraiment à quelque chose de plus pratique, si je puis dire. Enfin bon, c'est bien, les guides c'était assez pratique, mais aux formations, etc. Donc je pense que peut-être on pourra faire une petite coupure. Puis bon, s'il y a d'ailleurs quelques questions qui peuvent être posées à ce moment-là. Voilà, c'est vrai que quand on est en cours, les cours sont moins longs et qu'il y a des récréations entre, donc je pense que vous aurez peut-être besoin de ça. Donc est-ce que vous êtes prêts à tenir encore une vingtaine de minutes ou est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite pause tout de suite? On y va maintenant et on fera la pause après? D'accord, parfait. Donc Daniel va nous parler de la longue évolution en fait du métier de paysan, arrivé à voilà à guide et tous ces métiers divers et variés qui existent aujourd'hui, qui se sont développés justement sur le qui ont fleuri sur le terreau du tourisme, mais en partant de quand même assez lointain. Et donc Daniel, qui travaille aujourd'hui pour les archives de la bibliothèque et les archives de Glénat, qui est journaliste, qui a travaillé avec nous à Vertical, avec nous à l'Alpe aussi, etc. Et qui est surtout un grand historien de la montagne, qui s'intéresse beaucoup, collectionneur et historien de la montagne.
Merci. Bon, bonjour tout le monde. J'espère que ça va au niveau micro. Je ne me rends pas compte avec ces trucs-là. Voilà. Donc, oui, en fait, l'idée, parce que l'idée qui m'a été proposée pour cet article dans le numéro de l'Alpe, c'était de dire, de partir des contraintes de la montagne, donc le froid, le vent, la neige, le terrain particulier, la pente, surtout la pente, et de dire comment l'homme avait adapté ce terrain, donc en fonction de ses contraintes, au fil du temps, en quelque sorte, pour en arriver véritablement au loisir, au tourisme, qui, lui, va non plus générer une adaptation, mais véritablement un aménagement de la montagne et bien sûr la création de beaucoup, beaucoup d'activités à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à partir du 19e siècle en quelque sorte. Mais bon, en introduction, j'ai envie de rebalayer un petit peu depuis les origines tout ça, même si au début on ne parlait pas véritablement de métier de montagne, mais on sait que l'homme a commencé à pratiquer la montagne très tôt, dès la préhistoire. Hein. Bon, alors bien sûr, ces hommes-là, c'était des transhumants, des itinérants. Déjà des chasseurs, des paysans, des bergers, des éleveurs, bien entendu, mais des nomades en quelque sorte. Donc c'était plus des activités de vie, de survie quotidienne même que de métier. Mais on sait déjà qu'ils avaient notamment des vêtements, un habillement, des chaussures qui étaient spécifiques en quelque sorte. Donc dans les villages, dans les tribus en quelque sorte, on faisait déjà des choses pour eux, pour la haute montagne. Et on pense évidemment à Ötzi, hein, cette momie qu'on a retrouvée et dont on sait qu'elle date de plus de 5000 ans quand même. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les origines. Après, bon, il y a l'Antiquité, évidemment. Alors, quand on arrive à l'Antiquité, ben, on pense notamment aux grandes campagnes militaires, un peu avant notre ère, avec Hannibal et consorts. Et donc, on peut dire que là, peut-être, va arriver le premier métier de montagne. Le premier métier de montagne, c'est celui de passeur. Alors, le passeur, il est recruté sur place. Donc là, bien entendu, les chefs de guerre ne les emmenaient pas dans leur bagage. Donc, ils les trouvaient sur place, dans les tribus locales. Et donc, ce passeur, bah, on en a encore l'image devant ces grandes caravanes. Souvent, il a une cape, il a un grand bâton qui lui permet de sonder le terrain. Bon, bien sûr, il le connaît, le terrain, puisqu'il est encore une fois régional de l'étape, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, donc on a peut-être là notre premier métier véritablement tiré des contraintes particulières à la haute montagne. Il faut savoir que avant notre ère encore, c'était un terrain totalement inexploré, totalement méconnu. Bien entendu, donc ces passeurs étaient précieux. Alors après, les choses vont évoluer. On va arriver au Moyen Âge et à partir de ce moment-là, il y a un phénomène essentiel qui va se produire, bien entendu. C'est qu'on va créer une véritable communauté sédentaire de montagne. Hein. Là, y a des villages qui se créent et très vite, donc, on devient sédentaire. Donc, les choses vont changer de façon importante puisque qui dit sédentarisation dit ben, de véritables activités, de véritables métiers qui se créent sur place. Maréchal ferrant, bien entendu, cordonnier, commerçant et puis des fabricants de vêtements spécifiques à ces conditions parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les hivers étaient longs et froids, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Hein. On l'oublie un petit peu et on parle beaucoup de réchauffement climatique, mais à l'époque, c'était vraiment de longs hivers rigoureux. Donc, il fallait penser à ça. Alors, à partir du Moyen-Âge, il y a aussi un deuxième phénomène qui va se produire, c'est que on connaît un peu mieux les passages, on connaît un peu mieux les grands cols, parce qu'on passe par les grands cols pour voyager dans les Alpes, et donc on va y installer des hospices. Alors, ces hospices sont connus, le plus célèbre étant sans doute celui du Grand Saint-Bernard, bien entendu. Alors, donc là, il faut quand même accueillir des gens, les héberger, évidemment, et puis aussi les orienter, parce que ces gens-là sont de passage en général, donc ils ne restent pas. Et c'est là qu'apparaît un métier aussi, hein, j'ai envie de dire, et notre ami Claude doit le connaître, puisque c'est un peu l'ancêtre du sien, et qui répond au doux nom de marron. Alors, ne me demandez pas d'où vient l'origine du mot marron, je crois que personne ne le sait vraiment. Alors, ces marrons, ce ne sont pas vraiment des guides, ce sont des ancêtres. Les guides, encore, ils connaissent le terrain. Donc, ils sont là pour aider à passer. Ils ont, en général, préparé le passage. Ils sont aussi issus du milieu agricole. Donc, ils ont pu aménager le passage en prévision de la venue des gens, c'est-à-dire qu'ils vont aller faire la trace avec des animaux, éventuellement. Donc, ce n'est pas un rapport client-guide, comme je le disais dans l'article, par exemple. Donc, mais ils sont là, et on peut dire que, véritablement, ce sont les ancêtres. Et donc, ils vont aider à passer les passages les plus commodes. Et puis aussi, ce sont un peu les premiers secouristes, parce que malgré les précautions prises, eh bien, les accidents sont quand même légion. Il faut rappeler qu'à cette époque-là, au Moyen-Âge, la montagne, encore une fois, est dangereuse, méconnue. Et ces gens passaient sans connaître véritablement les conditions qui les attendaient. Les tempêtes, les avalanches se produisaient. Et donc, le marron, ben, il allait chercher les cadavres aussi. D'où l'expression « tirer les marrons de la neige ». Ensuite, ce n'est pas encore véritablement des métiers qui sont liés à un désir de découverte de la montagne dans le sens du tourisme, dans le sens du loisir. Mais bon, parce que c'est vrai qu'il y a les dangers objectifs, les avalanches, les tempêtes, le froid. Et puis, on doit croire aussi notre montagne souvent habitée par des êtres un peu douteux, des démons, des choses comme ça. Alors, la Renaissance va un petit peu changer cette approche de la montagne. Et là, on le doit à des scientifiques en plus. Et là, véritablement, on va se dire, bah, tiens, la montagne, on peut peut-être y trouver des bienfaits, du plaisir, de la contemplation. Et là, on va avoir des naturalistes, des humanistes aussi. Souvent, ce sont des Suisses. Ils s'appellent Gessner, Munster, Simler, Tschudi, pour ceux auxquels ça dit quelque chose. Et donc là, on parle avec eux pour la première fois du plaisir d'être en montagne, des bienfaits qu'on peut en tirer. Et puis donc, évidemment, ces gens-là, ils vont nous ramener des choses très intéressantes sur la botanique, sur la flore, sur la minéralogie. Ce sont les premiers naturalistes, véritablement, des Alpes, en quelque sorte. Et puis aussi, ils vont découvrir, un peu malgré eux, les contraintes de la montagne, les contraintes de la randonnée, de l'alpinisme, parce qu'il faut bien qu'ils s'y rendent hein, dans ces lieux où ils vont faire leurs recherches. Alors bon, ça va leur permettre aussi de découvrir du matériel spécifique. Et dès 1574, ce qui est quand même date un petit peu, Josias Simler, donc un de ces Suisses, va véritablement faire une relation, un livre qui est devenu un livre ensuite, et qui est le premier livre, en quelque sorte, qui ait jamais été écrit sur les Alpes, et plus particulièrement sur l'alpinisme, même si, évidemment, le terme à l'époque n'existe pas. Et quand on lit le livre de Simler, c'est tout à fait étonnant parce qu'il y parle de crampons, il y parle de cordes, il y parle de chaussures, il y parle de bâtons ferrés. Donc ce sont des matériels qui étaient fabriqués dans ces communautés de montagne. On en est sûr aujourd'hui. Hein. Les crampons, c'était une plaque de fer qu'on mettait avec trois, quatre pointes, qu'on mettait sur une peau de bœuf, hein, sous une peau de bœuf et qui venait sous la semelle de la chaussure. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait fabriquer sur place. Les chaussures elles-mêmes avaient souvent dessous des... Quand il n'y avait pas de crampons, parce que le crampon était aussi utilisé pour le cheval, hein, pour empêcher de glisser les chevaux. Donc, on mettait des cordes tressées dessous également. Donc, ce qui était censé éviter la glissade. Bon, bien entendu, ça ferait sourire beaucoup de monde aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, il y a déjà des choses qui s'installent à partir de cette Renaissance. Après, cette exploration scientifique, elle va se poursuivre, hein, bien entendu. Et puis, on peut dire que les choses ne vont pas évoluer beaucoup jusqu'au XVIIIe siècle. On peut dire qu'à partir de ce moment-là, apparaît le tourisme. Hein, c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui, à partir de la moitié du XVIIIe, avec cette notion de grand tour, hein, ces aristocrates, notamment britanniques, qui, par leur voyage, traversaient les Alpes, et qui avaient, eux, envie de s'arrêter pour découvrir ces paysages, découvrir ce que cachaient ces montagnes véritablement, si tant est qu'elles cachent quelque chose. Et puis, petit à petit, on va gravir les sommets. Le Mont Blanc, 1786, bien entendu, là, c'est le démarrage de l'alpinisme. Là, on gravit les sommets pour les gravir. On les gravit pour le plaisir et on les gravit pour la gloire, parce qu'il s'agit de les gravir avant les autres aussi. Et ça, c'est une tendance qui se développera jusque dans les années 1850, avec ce qu'on appellera l'âge d'or de l'alpinisme, qui consistera à gravir tous les grands sommets des Alpes. Alors là, qu'est-ce que ça entraîne au niveau d'aménagement? Parce que là, on peut désormais parler plus d'aménagement. Eh bien, il faut héberger tous ces gens. Il faut héberger ces alpinistes, hein, donc il faut construire des auberges. Alors souvent, ce sont les paysans, les premiers, qui vont aménager un petit peu leurs étables parfois et en faire des auberges spartiates, sommaires, mais qui petit à petit vont s'améliorer. Et puis ce seront les hôtels. Les hôtels vont apparaître aussi assez rapidement, fin 18e et surtout, bien sûr, première moitié du 19e. Donc là, ça veut dire des personnels, hein, pour des restaurateurs, des gens pour le ménage, etc. Donc il y a une petite société qui s'installe en montagne progressivement à cette époque-là. Donc ensuite, bon, bah, ça va évoluer, hein, l'aménagement de la montagne, ça va passer aussi par le ski, tout ça va s'organiser, hein, la première compagnie des guides, c'est 1821, Mont-Claude, hein, c'est ça, à Chamonix, voilà, et les autres apparaîtront dans les 20-30 ans qui suivront, ça va s'organiser en société aussi, en club alpin, hein, le premier club alpin, les Anglais ont créé les premiers, comme d'habitude, c'est 1857, et juste, ça va s'étaler. Les derniers Français sont les derniers, en 1874, donc sont créés à ce moment-là aussi. Donc là aussi, il y a des récits de courses qui sont faits. On commence à écrire sur la montagne également. Donc ça se développe vraiment beaucoup. Et puis le ski arrivera peu après derrière, hein, au tournant des 19e et 20e siècles, avec les écoles de ski et avec les clubs d'abord, pardon, et puis ensuite les écoles de ski. Donc bon, ça, c'est un peu le corps de mon article. Alors je ne vais pas en dire trop plus là-dessus, hein, je dirais que c'est plus une introduction que j'ai voulu faire à tout ça, c'est balayé encore une fois à l'aide de quelques dates clés. J'ai eu envie plutôt de considérer des exemples d'activités qui se sont dirigées petit à petit vers le tourisme et qui ont disparu pour certaines aujourd'hui, qui existent pour d'autres encore. Et puis aussi, à la fin de l'exposé, j'ai eu envie de citer deux exemples de personnages qui ont joué un rôle dans l'aménagement de la montagne et surtout dans l'évolution du matériel. Ceux qui me connaissent savent que je me suis longtemps occupé du matériel technique de montagne dans les revues pour lesquelles j'ai œuvré, donc ils ne s'étonneront pas. Voilà. Donc le premier exemple que j'ai eu envie de vous donner et qui donne une idée de la difficulté de l'aménagement de la montagne, c'est ce qu'on a appelé la route du sel. Alors ça tombe bien, aujourd'hui en 2010, on fête les 400 ans de cette route du sel dont la construction a été décidée par Charles-Emmanuel Ier en 1610 donc. Et donc on avait besoin d'avoir du sel en montagne, et inutile de vous dire qu'on n'en trouvait pas beaucoup et que pour avoir du sel, il fallait aller le chercher au bord de la mer, en Provence, du côté d'Hyères par exemple. Et donc, on a essayé de relier un petit peu comme ça la région de Nice à celle du Piémont, Turin, etc. Et on a trouvé un passage. Passage qui s'est appelé la route du sel, qui deviendra la route royale un peu après. Et ce passage passe par la vallée de la Roya et le col de Tende, donc dans les Alpes-Maritimes. Et bien sûr, c'est une longue route, hein, ça fait 230 km hein, quand même au total. Et puis, alors évidemment, au début, c'est un sentier muletier, il ne faut absolument pas se faire d'illusions. Bon, la route deviendra un peu plus carrossable à la fin du XVIIe siècle, à partir de 1680 environ. Mais bon, ce n'est pas évident du tout. Alors que pourquoi l'homme en montagne a besoin du sel? Pour la conservation des aliments, bien entendu, pour le bétail, pour lui, au quotidien. Et puis, de toute façon, avec le développement du loisir, du tourisme, des auberges, des restaurants, des hôtels, il y a un besoin qui est accru. Donc, il faut vraiment... On commence à emprunter cette route du sel dès le XVe siècle, dans l'absolu, mais bon, c'est dans les années 1750-1850 que le développement sera le plus important, puisque au milieu du 19e siècle, il y avait 55 000 mulets qui passaient par an. Parce qu'il faut savoir qu'on portait ça à dos de mulets. Hein. Vous aviez des grands ballots de chaque côté du dos de la bête, voilà, de sel. Et c'est comme ça qu'on acheminait le sel. Ah bon, cette activité va disparaître, bien entendu. À la fin du 19e, il y a un tunnel qui a été creusé là-bas en 1882. Il y a le train qui est arrivé, bien entendu. Et donc, cette route du sel existe toujours dans nos mémoires. C'est quand même essentiel, mais elle a disparu. Il y en avait une autre, pas loin, hein, qui empruntait une vallée proche des Alpes-Maritimes, la Vésubie, donc moins prestigieuse. Mais ça existait aussi. Le transport du sel se faisait ainsi donc jusqu'à la fin du 19e. Alors bon, mon deuxième exemple, c'est pour vous dire que ça marche aussi dans l'autre sens. Hein. Le sel, on va le chercher dans la mer, on le monte dans les montagnes. Et là, je vais vous parler de la glace, où on fait un petit peu l'inverse, forcément, puisqu'il y avait un commerce de la glace et qui, là encore, va s'intensifier progressivement pour les mêmes raisons que tout à l'heure, puisque les restaurants, les hôtels ont besoin de glace de plus en plus pour leurs clients, hein, parce que c'est vrai que c'est de la glace de transformation, alors qu'au début, comme pour le sel, c'était aussi un moyen de conserver les aliments, bien entendu. Alors, c'est une période assez favorable hein, que la Renaissance pour aller chercher de la glace, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque débute le petit âge glaciaire, ce qu'on a appelé le petit âge glaciaire, vers 1550, pardon. Et là, les glaciers descendent très bas, d'ailleurs des fois trop bas. Hein, ça arrive jusque dans les villages. En tout cas, c'est facile d'y prélever de la glace. Alors, la première méthode de prélèvement de cette glace, ben, c'est tout simplement de débiter ainsi des gros blocs de glace directement dans les glaciers. Alors, bien sûr, l'inconvénient, c'est qu'il faut l'utiliser assez rapidement, vous en doutez. C'est que c'est pénible, lourd, hein, plus de 100 kilos, souvent un bloc de glace ainsi débité. Donc, on va trouver aussi un deuxième moyen hein, d'aller chercher et d'aller conserver cette glace. Donc, on va construire ce qu'on appelle des glacières. Et on va les construire, bien sûr, sur le chemin des ruisseaux d'altitude, hein, des cours d'eau d'altitude, ce qui permet ainsi, dans des puits, de recueillir de l'eau, de la conserver, d'attendre l'hiver, qu'elle gèle, pour ensuite, à nouveau, la débiter en pain de glace et s'en servir, la destiner aux clients. Alors, bien sûr, ça a disparu à peu près à la même époque, mais c'était encore assez courant au 19e siècle, quand même. Hein. Bon, alors après, ça a disparu, mais il existe des vestiges. Hein. C'est intéressant. Si vous voulez voir des glacières dans les Alpes françaises et notamment dans le sud de la France, il y en a beaucoup encore. Hein. C'est des bâtiments un peu ronds, hein, de gros bâtiments ronds. Donc, certains ont été bien préservés, voire restaurés. Donc, c'est bien aussi d'aller voir, je crois, les témoignages de ce genre de patrimoine. Alors, le troisième exemple que je voulais évoquer, lui, il n'a pas disparu. Bien au contraire, vous allez comprendre pourquoi, et que je ne traite pas dans mon article non plus, c'est la photographie. Alors, la photographie, elle apparaît finalement un petit peu en même temps que l'avènement du tourisme. Hein. Bon, elle a été inventée vers 1830, si vous voulez tout savoir, numéro 41 de l'Alpe, Dominique ? 39. Oh, j'étais pas bien loin. Voilà. Donc, la photographie, alors la photographie de montagne, elle apparaît en plein âge d'or de l'alpinisme, encore une fois. C'est-à-dire, John Ruskin, qui était un Anglais, est célèbre pour avoir été le premier, sans doute, à avoir fait une vraie photo de montagne avec le Cervin. Sauf que c'est pas simple à l'époque, mais bon. Ça pèse, le matériel est très lourd, 200, 250 kilos. Il est complexe à mettre en œuvre. Hein. Il y a des plaques peut-être plus grandes que celles-là, hein, puisqu'évidemment, on faisait des photos sur plaques de verre. Il y a des solutions chimiques à mettre en œuvre. Il y a une chambre noire qu'il faut mettre sous une tente. Alors, monter ça en montagne, ce n'était pas évident. Donc, les premiers photographes, généralement, ils allaient sur des belvédères faciles d'accès. Mais comme il y a les touristes, eh bien, il faut bien un petit peu essayer de profiter de cette manne-là aussi. Et je pense notamment à l'impératrice Eugénie qui, en 1860, avait organisé une petite expédition au Mont-en-Vert. Mont-en-Vert, c'est juste au-dessus de Chamonix, la mer de glace, bien entendu. Et donc, elle s'est octroyée pour ça les services de deux frères parisiens, les Bissons, qui ont été affublés du titre, d'ailleurs, à l'époque, des photographes de l'empereur, s'il vous plaît. Alors bon, là, pareil, c'était de la photo de prestige. Ça se destinait avant tout à une aristocratie. Mais ce sont les débuts. Et puis très vite, on va se dire, bah, tiens, si on allait photographier depuis le sommet. Et là, ça change tout. Et ça va d'autant plus vite que les frères Bisson, dès l'année suivante, en 1861, ils auraient fait les premières photos depuis le sommet du Mont Blanc. Bon, on n'est pas tout à fait sûr. Il y a un Joseph Terraz, qui lui est de Chamonix, qui est arrivé, qui a dit, ah oui, non, mais moi aussi, j'en ai fait. On n'en a jamais eu vraiment la preuve. on pense en fait que les frères Bisson ont fait des photos depuis le sommet du Mont Blanc, mais qu'ils ont ramené des documents pas très exploitables. Donc bref, il y a des discussions autour de ça. Mais bon, la porte est ouverte. La porte est ouverte. Et donc là, on va tout photographier à partir de cette époque-là, 1860-70. Pourtant, le temps de pause est interminable pour les personnages. Plusieurs minutes à cette époque-là, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais tant pis, on photographie les montagnes, les paysages, les gens. Et puis on ouvre des ateliers, on ouvre des petites échoppes, notamment mais sur Chamonix. Et ce sont des dynasties un petit peu comme ça qui vont s'installer, qui vont rester. Les Terrasses étant bien sûr les plus célèbres, puisque je crois que c'est la quatrième génération aujourd'hui. Voilà, donc bref, voilà, c'était l'avènement, la création de la photo de montagne. C'est vrai que ça a joué un rôle important dans l'histoire du tourisme. Et aujourd'hui, on sait encore que la présence de la photographie, on vient de le voir, dans le domaine de la montagne reste essentielle, bien entendu. Voilà. Donc, je vais terminer à l'heure avec... Oui, je voulais absolument illustrer ce propos avec deux exemples de gens qui ont marqué, qui ont un petit peu changé l'histoire du cours du matériel de montagne. Parce que c'est vrai qu'en fait... Il y avait des petits génies quand même. On a parlé des métiers en général, mais il y avait aussi des gens qui, grâce à leurs inventions, ont changé les choses. Je pense qu'ils méritent qu'on parle d'eux. Voilà, donc je tenais à le faire. Alors le premier qui nous intéresse nous mène à l'année 1935. C'est un alpiniste italien donc qui rentrait d'une course dans le Val Bregaglia, entre pratiquement la frontière italo-suisse, qui rentrait d'une course donc en 1935. Et puis, bon, la tempête est arrivée. Voilà. Donc, c'est une course rocheuse. C'est dans cette région-là, c'est souvent le cas. Mais il y a des glaciers en bas quand même. Et donc, il y avait d'autres alpinistes. Et parmi ces alpinistes, il y en a 6 qui ont été incapables de regagner le glacier. Dans la tempête, ils sont morts. Et pourquoi ils n'ont pas pu regagner ce glacier? Essentiellement parce qu'ils n'avaient pas des chaussures adaptées. À l'époque, on utilisait des espèces pour grimper dans le rocher, des espèces de chaussures en feutre, de semelles en feutre, qui n'est absolument pas adhérente. Alors, s'il pleut sur le rocher, je vous laisse imaginer. Donc, ils sont morts sans pouvoir regagner ce glacier. Alors, cet alpiniste italien, il s'est dit, zut. Donc, lui, qui était un bon alpiniste en plus, il a pu rentrer. Et puis, il a cogité une idée qu'il avait en tête depuis quelque temps. Et en 1937, il a posé un brevet. Un brevet avec qui consistait à inventer une semelle en caoutchouc vulcanisée, crantée, très, très adhérente. Et cet Italien s'appelle Vitale Bramani. Et si vous prenez les premiers mots de son nom, de son prénom, ça fait Vibram. Donc, ce monsieur est l'inventeur du Vibram. Et je veux dire, aujourd'hui encore, donc plus de 70 ans après, on ne compte pas le nombre de marques qui s'équipent en Vibram. D'ailleurs, quand on parle, même souvent, d'une bonne semelle de chaussures, on dit une Vibram. Donc, c'est dire. Donc, Bramani a vraiment été un inventeur, en quelque sorte, de la semelle moderne de montagne. Et à partir des années 50, surtout, ça a pris une dimension assez incroyable. Et ça le demeure aujourd'hui. Ce sont des gens qui ont généré de véritables petites industries du matériel de montagne. Voilà. Donc, ça, c'était mon premier exemple. Alors, le second portrait va nous ramener en France, avec un monsieur qui, comme Claude, n'a pas ses origines dans les Alpes, dans la montagne, mais à Paris. Alors, c'est Pierre Alain, on va tout de suite le dire. Pierre Alain, donc, qui était... Bon, lui, il n'a pas de montagne dans son coin, donc il faut qu'il en trouve. Alors, il trouve les blocs de grès du massif de la forêt de Fontainebleau, que vous connaissez, alors qui se caractérise notamment par l'absence de prise franche. Tout consiste à grimper en adhérence là-bas. Donc, Alain commence par perfectionner au maximum cette technique de grimpe, en quelque sorte. Il est très vite un des meilleurs, bien entendu. Et puis, comme il est bon, il va quand même envie d'aller voir les Alpes. Et donc, il les découvre. Il y fait de grandes premières, comme la face nord de Dru en 1935. Et puis, il va aussi en Himalaya l'année suivante, où il participe à l'expédition française au Hidden Peak. Donc, il acquiert un maximum d'expérience sur des terrains très, très variés. Et comme il est ingénieux, il va nous faire beaucoup de choses, des innovations qui, aujourd'hui encore, sont restées dans les mémoires. Je tourne la page. C'est la dernière. Ça va ? Bon, non, mais j'ai fini. Donc il a d'abord un petit atelier à Paris, Pierre Alain, et donc il planche sur la fabrication d'un mousqueton d'abord, un mousqueton qui va révolutionner le domaine, puisque il va diminuer le poids de moitié, hein, il passait de 130-140 grammes à 60-70, et aujourd'hui encore, les mousquetons allégés modernes sont directement déclinés de ce qu'il a fait. Ensuite, il y aura le fameux chausson d'escalade, le PA, hein, ce sont ses initiales, qui sera commercialisé après la Seconde Guerre mondiale, et qui là, pareil, cette semelle lisse, très adhérente, va remplacer tout ce qui se faisait avant, l'espadrille, etc., et deviendra universelle. Après ces deux inventions, on lui doit aussi des choses comme dans le domaine du textile, des vêtements en duvet qui permettront de grandement améliorer les bivouacs, de la sécurité. On lui doit le descendeur. Alain, on l'oublie beaucoup. Avant, on descendait avec la corde à l'épaule, ce qui était assez malaisé. Et il a inventé un descendeur qui n'a pas été très prisé au début, d'ailleurs. Il faudra attendre un peu. Ou des systèmes de décrocheurs. Et puis, Pierre Alain s'est installé ensuite à Uriage, près de Grenoble. Il a continué à travailler. Moi, je me souviens l'avoir vu à... Je ne sais pas, il est mort à 96 ans, à 92, 93 ans, sur les salons professionnels. Et il expliquait aux gens comment fonctionnaient ces systèmes de descendeurs et de décrocheurs. Voilà. Et il est mort peu après. Merci.
Comme quoi, non seulement la montagne conserve éventuellement quand elle ne tue pas tout de suite, mais en plus... Elles permettent quand même la créativité, donc on retombe sur ce que disait Philippe au début. Donc bon, on fait une petite pause de... Ou une partie... Ouais, il voulait un peu sortir, je pense. C'était... On fait une pause... Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de faire une petite pause sortie, là? Mais alors vraiment 5 minutes, et puis... voilà. Mais vous revenez vite, hein, parce que sinon vous n'aurez pas droit au vin après, à la dégustation de vin.